semaine d'actualité. Pierre-Édouard Deldic.
Bonjour, ce sont des voix, des façons de voir, de jeunes trentenaires que vous allez entendre grâce à notre invité Aurélie Charron, journaliste qui donne la parole depuis des années à ceux de sa génération, ou presque. Nous allons parler d'une nouvelle façon de voir le monde, tout en revivant bien entendu les temps forts de l'actualité de la semaine. Ainsi partirons-nous en Iran, en Turquie, en Mauritanie, en Somalie, par exemple, grâce à la richesse des reportages de la rédaction de RFI, de ses correspondants dans le monde entier, ce qui fait notre fierté. Il fait chaud, étouffant, c'est la phrase que l'on a sans doute le plus entendue en France ces derniers jours à cause d'une canicule qui a poussé les températures jusqu'à une quarantaine de degrés, parfois plus, dans le midi. Même vous qui êtes peut-être habitué à des températures extrêmes, vous pouvez être impressionné. Reportage à Paris, mardi.
C'est sûr que c'est un petit peu dur de rouler quand il fait chaud. On essaye de se mettre le plus possible à l'ombre et de bien s'hydrater pour pas avoir trop chaud. Mais sinon, c'est sûr que c'est bien plus dur qu'en temps normal.
Karim sue à grosses gouttes sur son vélo. La mi-journée, une période intense pour ce livreur de nourriture, celle également où il fait le plus chaud. De l'autre côté du carrefour, David, serveur dans une brasserie, termine le service du midi.
Là, je coule, c'est pas propre. Je suis toujours en train de m'essuyer le visage, en train de boire, en train d'essayer de montrer propre, quoi.
La chaleur est dure à supporter pour toutes ces personnes qui travaillent dehors, mais aussi pour celles coincées à l'intérieur. Franck est boulanger en Marseille, à côté de son four à pain qui affiche 250 degrés.
Bah en fait, il fait très très très très chaud, surtout devant le four. Après, on acclimate, on essaie d'aller un peu plus vite pour justement plus finir plus tôt, quoi. On fait un peu plus de pauses entre chaque four. Et on essaye d'échelonner la cuisson des baguettes.
Avec les casques de chantier, les gants, le matériel de protection, les ouvriers sont ceux qui paient sans doute le plus lourd tribut à la chaleur. Du coup, on s'organise comme on peut.
On se rejoint à la boutique vers 6h pour être sur chantier aux alentours de 6h15, 6h30. Ce qui fait qu'on quitte le chantier pour 13h30, 14h, comme ça, ça évite les gros coups de chaleur sur place.
Ceci dit, avec 27 degrés annoncés dans la matinée ce mardi, il leur faudra toujours prévoir des litres et des litres d'eau.
Et la chaleur s'est accentuée depuis mardi. Reportage donc de Simon Rosé. Une semaine d'actualité à écouter aussi sur votre moteur de recherche préféré, sur le site de la radio et sur l'application RFI Pure Radio. Et avant d'écouter Aurélie Charron, partons en Turquie. Le candidat de l'opposition, Ekrem İmamoğlu, a réédité dimanche sa victoire au municipal d'Istanbul après l'annulation du premier scrutin infligeant au président Recep Tayyip Erdogan un revers électoral marquant. Correspondance d'Anne Andlauer.
Immédiatement après l'annonce des premiers résultats, Ekrem İmamoğlu saluait ses partisans réunis sous les fenêtres de son QG de campagne.
Cette victoire, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à Istanbul. C'est un nouveau départ qui apportera à Istanbul la justice, l'égalité, la tolérance et la débarrassera du gaspillage, de l'arrogance, de l'ostentation, de la polarisation. La Turquie entière a gagné ce soir.
Avec un grand sourire, Asma, une militante, agite un drapeau rouge à l'effigie du nouveau maire. Elle rappelle que l'opposition n'avait pas gagné à Istanbul depuis 25 ans.
Jusqu'ici, chaque élection a amené une nouvelle défaite et une nouvelle déception. Aujourd'hui, je suis très heureuse. J'ai prié toute la journée et maintenant je vais faire la fête.
Ozan Öcek, un membre de la campagne d'Ekrem İmamoğlu, estime que l'opposition doit saisir cette victoire pour engager la reconquête électorale du pays.
Les électeurs viennent de donner une bonne leçon au parti au pouvoir. Pour nous, c'est la fin de l'hégémonie qu'il imposait à ce pays depuis 17 ans. Pendant les 5 prochaines années, avec les politiques que nous allons mener à Istanbul, nous allons montrer à tout le monde ce qui se passe quand l'opposition récupère une mairie à l'AKP. Et le perdant ce soir, c'est le chef de l'AKP, c'est Erdogan.
Dans les rues d'Istanbul, les partisans d'Ekrem İmamoğlu ont célébré leur victoire pendant toute la nuit, reprenant en chœur le slogan de campagne du nouveau maire « Tout ira très bien ».
Une semaine d'actualité donc, nous sommes en compagnie d'Aurélie Charron. Bonjour Aurélie.
Bonjour.
Vous êtes journaliste, productrice à France Culture et depuis des années vous vous intéressez à la voix d'une génération, je schématise un peu, celle des trentenaires grosso modo, 25-30 ans.
Oui voilà, entre 20 et 30.
Alors vous êtes intéressé à ces jeunes pour la radio et vous continuez d'ailleurs. Et je crois que vous avez créé une radio aussi,
on peut enfin, en tout cas, parler sur RFI. On a créé un projet qui s'appelle Radio Live, surtout sur scène, donc pour en parler oui. Qui est un projet où c'est comme une radio en trois dimensions sur scène qui est en chair et en os face à vous et où les jeunes gens dont on va parler là, dont je parle dans le livre, sont là et racontent leur vie et se rencontrent.
Et c'est cette radio qui vous a aussi permis de voyager.
Voilà, c'est ça, cette dernière année, oui.
Et vous venez de publier aux éditions L'Iconoclaste « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après », c'est le titre du livre, et qui fait du bien parce que vous avez voulu faire ce livre contre les grincheux en quelque sorte.
Oui, c'est vrai que, en fait, quand j'ai commencé à faire ces séries radio sur la jeunesse, au tout début avec Caroline Gillet, une amie avec qui on fait ce radio live aussi.
Qui travaille
à France Inter. C'est vrai qu'on avait envie de, on avait vraiment l'âge de, on avait 23, 24 ans en commençant, on avait vraiment l'âge de ceux qu'on allait rencontrer et on avait des vraies questions à leur poser sur notre génération, des questions que nous, on se posait tous les jours. Et c'était un peu en réaction à cette phrase qu'on entendait souvent qui est que ça va être difficile, que vous faites partie d'une génération un peu sacrifiée. Et nous, on n'avait pas envie déjà de faire partie de ça. Et on a, c'est pas l'impression qu'on avait en rencontrant et en parlant à des jeunes gens autour de nous. Et donc, c'est vrai que tous les gens que j'ai rencontrés, dont je parle dans le livre, sont en eux-mêmes des raisons d'espérer par ce qu'ils sont, par ce qu'ils font, et parce qu'ils se satisfont pas du monde tel qu'il est, et que à leur endroit, ça peut être à l'échelle de leur rue, de leur quartier, de leur ville, sont en train de changer les choses. Et c'est vrai qu'ils ne le font pas forcément en envoyant un communiqué de presse. Et donc, c'est notre travail à nous, journalistes, documentaristes, d'aller les chercher, de les faire parler. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ces gens-là, s'ils se taisent, si on ne les entend pas, on a perdu un peu la bataille des récits. Donc, il faut occuper l'espace aussi par leurs mots, par leurs récits. Donc, c'est cette envie aussi, voilà, en effet, de résister et de dire, il n'y a pas que ce côté négatif et il y a des choses qui se passent et il faut leur donner l'espace.
Ah, c'est une autre vision du monde d'évidence que vous nous proposez dans ce livre, Aurélie Charron, avec des portraits croisés qui nous conduisent dans le monde entier.
Oui, parce que c'est ça aussi la richesse. En fait, j'ai eu la chance pour la radio de pouvoir voyager, rencontrer ces gens, et puis j'ai travaillé à l'étranger et ensuite sur la jeunesse en France. Et en fait, je me suis rendu compte que la force, c'était aussi ces échanges-là, la circulation des idées, des pensées, et de se dire que même si de Sarajevo à Beyrouth, à Marseille, évidemment, les contextes, les histoires sont très différentes, mais on a quand même des choses à se dire, parce qu'on a des questions communes, parce que comment vivre ensemble, comment les communautés coexistent, comment on trouve, quand on a 20 ans, notre place dans la société, comment on fait pour s'engager, tout ça, en fait, on peut s'inspirer parce que les réponses des uns et des autres, ça donne des idées.
Alors, à propos de votre génération, Aurélie, je ne veux pas dire votre âge, je ne le connais même pas d'ailleurs, vous écrivez « Nous sommes des émotifs pudiques, l'air du temps est à la désinvolture, il vaut mieux faire comme si rien ne nous atteignait ». C'est votre cas aussi ?
Bah justement non, mais c'est vrai que c'est plus facile de dire que, enfin de faire un tweet ou un post et de dire qu'on l'avait bien dit, que c'était évident, que ça allait arriver. Et en fait, c'est vrai que c'est plus audacieux, je trouve, et plus courageux de se dire d'avouer qu'on a envie d'y croire, qu'on a envie de penser que ça pourrait se passer différemment, et qu'on a envie d'avoir des émotions collectives. C'est vrai qu'on est aussi une génération où peut-être on est un peu atomisé, un peu dans notre coin, et même cette volonté de rencontrer ces jeunes gens, c'est aussi de recréer un collectif un peu à nous et de se dire mais qui est complètement provoqué, mais qui pour retrouver un sens commun et se rassembler et avoir des émotions ensemble qui sont pas que pleurer quand il y a des drames.
Des rencontres à Marseille vous font dire, Aurélie Charron, nous sommes aussi une génération coincée entre les cyniques et les naïfs. C'est inconfortable.
Oui, parce que c'est l'impression que j'avais aussi de se dire que on n'était pas très prise au sérieux quand on avait un espoir un peu naïf. Et en fait, je cite Ariane Mouchkine qui dit « Moi, naïf, ça vient de naissant. » Et oui, j'avais besoin d'être naissante en permanence. Et c'est vrai que le titre, c'est un peu évidemment aussi une provocation. C'était pas mieux avant, ce sera mieux après. Mais c'est aussi une vraie chose de se dire que pour moi, ces gens-là que j'ai rencontrés, par exemple, je pars de Amir, qui habite en France maintenant, qui a grandi à Gaza, qui est le plus optimiste des optimistes alors que je connaisse, alors qu'il a une vie pas facile, et toujours aujourd'hui, c'est pas gagné, il a pas encore ses papiers et tout ça, mais en fait, c'est plus courageux de se dire ce sera mieux après, parce que c'est se dire qu'on a une marge de manœuvre et qu'on peut agir et qu'on a une responsabilité aussi, alors que si on se dit qu'on n'a rien à faire, c'est presque plus confortable et plus triste. Mais donc j'ai l'impression que oui, il faut se battre un peu tous les jours contre les tristes et contre ce cynisme un peu ambiant qui nous fait dire voilà, c'est perdu d'avance. Évidemment, qu'est-ce que vous pensez, Trump allait être élu? Évidemment, non, pardon d'avoir cru que ça pouvait être autrement.
Alors nous allons croiser tout au long de notre voyage quelques-uns de ces jeunes gens.
Sept jours dans le monde.
Et direction l'Iran maintenant, Aurélie. Le ton a continué de monter entre les États-Unis et l'Iran après le durcissement des sanctions décidées par Donald Trump contre les dirigeants iraniens, à commencer par le guide suprême Ali Khamenei, à Téhéran mercredi, Ziavosh Ghazi.
La surenchère et la guerre des mots avec des menaces militaires directes se poursuivent de plus belle entre l'Iran et les États-Unis. Dans ce contexte, Téhéran a annoncé une accélération de son programme d'enrichissement d'uranium à partir de ce jeudi en réaction aux sanctions américaines qui frappent durement l'économie iranienne. Dans le cadre de l'accord avec les grandes puissances, l'Iran avait accepté de limiter pendant 10 ans son programme nucléaire. Depuis une semaine, l'idée d'un conflit militaire ouvert est dans tous les esprits en Iran. Pour Ali Reza Parsa, un jeune Iranien de 30 ans, une guerre est la pire des choses.
Nous ne voulons pas la guerre, tout sera détruit, il faudra tout reconstruire. Et pour cela, il faut de l'argent, ce sera comme la Syrie.
Mais Mohammad Ahmadian, un commerçant iranien de 38 ans, ne croit pas à un conflit et soutient la décision du gouvernement de relancer le programme nucléaire.
Je ne crois pas à la possibilité d'une guerre. L'Iran est une puissance dans la région. Nous devons défendre nos droits. Les États-Unis et leurs milliers de têtes nucléaires veulent nous imposer leur volonté. Nous voulons utiliser la technologie nucléaire civile pour l'électricité et à d'autres fins.
En tout cas, la décision de Téhéran de relancer son programme d'enrichissement d'uranium ne peut qu'aggraver encore la tension entre l'Iran et les États-Unis, mais aussi avec les pays européens qui demandent à Téhéran de rester dans le cadre de l'accord nucléaire.
Jared Kushner, le conseiller du président Donald Trump et accessoirement son gendre, a exhorté les Palestiniens à saisir l'occasion du siècle, a-t-il dit, à l'ouverture à Bahreïn d'une conférence sur le volet économique, et économique seulement, c'est là le problème, d'un plan américain de règlement au Proche-Orient, un préalable, selon lui, à un accord de paix. Cette conférence a été boycottée par les Palestiniens et aussi par les Israéliens. Vincent Souriau.
Jusqu'ici, c'est d'abord un chiffre. 50 milliards de dollars sur 10 ans, selon les États-Unis, c'est le minimum pour relancer l'économie de la région et bâtir des infrastructures décentes. Oui, mais qui va payer? Personne ne le sait. Sur l'origine des fonds, les documents américains restent très flous. Aucun engagement financier précis. Mais le plan Kushner, c'est surtout une absence, celle du volet politique, la colonisation, l'occupation par Israël des territoires palestiniens, la solution à deux États. Là-dessus, pas un mot. L'administration Trump, très pro-israélienne, promet de livrer ses solutions en temps utile, sans plus de détails. Pour les Palestiniens, c'est une ligne rouge, ils l'ont toujours dit. On ne va pas parler d'argent, de développement économique ou d'investissement avant de régler le fond du dossier, d'où le boycott palestinien. Aucun négociateur n'a fait le déplacement à Bahreïn. Et comme les Palestiniens n'y étaient pas, le gouvernement israélien ne s'est pas déplacé non plus. Sans les deux protagonistes du conflit israélo-palestinien, sans prise de position sur le fond, difficile de voir un grand avenir à cette initiative américaine.
À Hong Kong, les manifestations pour la liberté dans le territoire ne sont pas finies. Elles ont en fait recommencé cette semaine. Correspondance de Florence de Changy.
C'est avec le slogan « Free Hong Kong » et « Démocratie Now », c'est-à-dire « Hong Kong libre » et « La démocratie maintenant » que les organisateurs de cette nouvelle manifestation ont rassemblé quelques dizaines de milliers de participants sur l'esplanade devant la mairie de Hong Kong, le City Hall, mercredi soir. Alan Chang est un jeune banquier qui a quitté son emploi il y a 3 semaines pour se consacrer à plein temps aux manifestations. Il explique le sens de la mobilisation de ce soir.
Parce que le G20 va bientôt commencer, on veut essayer d'alerter la communauté internationale sur ce qui se passe à Hong Kong et qu'elle nous aide à faire pression sur le gouvernement chinois. Étant donné que Hong Kong est un centre financier international, il faut une prise de conscience générale de notre attachement à nos libertés. Et peut-être que Hong Kong pourrait devenir un exemple de démocratie pour la Chine.
Maybe Hong Kong could be a sample of democracy for China.
À la fin de ce rassemblement, plusieurs groupes se sont formés, mais sans annoncer leurs intentions. Certains sont repartis faire le siège du quartier général de la police, désormais dans le collimateur des manifestants presque autant que le gouvernement, depuis les violences policières du mercredi 12 juin.
À suivre évidemment dans nos rendez-vous d'information. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie Charron qui vient d'écrire « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après », un livre touchant publié aux éditions L'Iconoclaste. L'Iran vous dit quelque chose ?
Oui, ça fait partie de mes destinations. C'est vrai qu'à un moment donné, je me posais la question justement dans ces lieux en manque de démocratie. J'y suis allée juste après Gaza et avant Moscou. Comment les jeunes gens se créent des espaces de liberté? Et c'était super intéressant en Iran. Je parle dans le livre d'une jeune femme qui est cinéaste. Et c'est vrai que c'est un endroit où il y avait une telle différence entre l'intérieur et l'extérieur, où j'ai rarement vu une telle liberté, en fait, à l'intérieur des maisons, à l'intérieur de là où se rassemblaient les jeunes, la façon dont ils faisaient de la musique,
Notamment.
Oui, voilà, du rap dans des studios clandestins. En fait, il existe toute une vie alternative, souterraine, incroyable. Et c'est vrai que c'est fou quand on dès qu'on sort dans la rue et qu'on c'est un autre monde.
Oui, d'ailleurs, vous rappelez dans ce passage de votre livre, je vous cite, à Téhéran, quand on part en tant que journaliste, on est affilié à une agence de presse qui vous assigne un traducteur officiel. Il est chargé d'écrire un rapport sur vous, de raconter ce que vous avez fait, qui vous avez rencontré et les questions que vous avez posées. Ouais. Les choses sont claires.
Bah voilà, mais c'est vrai qu'il y a tout un jeu évidemment de faire très attention aussi de pas mettre en danger les jeunes gens qu'on rencontre. Et ça, c'était vraiment pas évident parce qu'en fait, tous les jeunes que je cherchais à rencontrer, jeunes photographes, réalisateurs, tout cela avait déjà eu des problèmes avec la justice parce qu'en fait, dès qu'ils repéraient quelqu'un qui réfléchissait un peu trop, ils les intimidaient et souvent ils avaient des années de prison en sursis en fait. Et donc parler à un média hostile au régime et on est tous considérés comme tels peut être dangereux pour eux parce qu'on peut les rappeler et leur dire les 3 ans que t'es en sursis tu vas les faire, donc il fallait faire très attention. Et il y a d'ailleurs des rencontres que j'ai faites en Iran et que j'ai pas passées à la radio parce que c'était trop compliqué ou finalement pas enregistré, enfin c'était pas un territoire évident.
Ou compromettant pour ceux qui parlaient, non?
Oui, voilà, c'est ça, ouais. Pour pas les mettre en danger, mais du coup dans un livre je peux le raconter, donc ça c'est...
Il y a une région du monde qui est très présente dans ce livre, c'est le Proche-Orient, justement, avec Israël et les territoires occupés. Mais vous le faites, vous l'écrivez ce livre à votre manière, c'est-à-dire à travers toujours des portraits de jeunes gens. Et là, vous faites de très beaux portraits d'une Israélienne, Gal, et de Palestiniens aussi.
Oui, c'est vrai que Gal, en fait, ça fait très longtemps que je l'ai rencontrée. On a fait beaucoup de choses ensemble. Elle est apparue dans plusieurs séries radiophoniques. Et elle habite en Israël et elle a créé un théâtre pour des adolescents à Jaffa, dans le sud de Tel Aviv, juifs, arabes, toute confession, toute communauté confondue. Et c'est finalement, c'est des projets qui deviennent rares, malheureusement, en Israël en ce moment. Et en fait, quand je suis partie à Gaza, Gal m'a dit, mais je veux parler à quelqu'un de Gaza, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Elle avait 25 ans. On est à 40 minutes de voiture et j'ai aucune idée de la façon dont ils vivent, voilà, à quoi ça ressemble. Et donc, quand je suis arrivée à Gaza, j'ai rencontré plusieurs personnes, entre autres Nabila, une jeune prof d'anglais. Et je leur ai proposé de faire un Skype ensemble. Et donc, c'était un moment un peu surréaliste parce que c'était en juin 2014, c'était juste avant la dernière guerre de l'été 2014, entre 3 semaines avant. Et donc, on a fait ce Skype. J'étais dans la maison de Nabila, au nord de Gaza, à Betlaya. On a appelé Gal et on a parlé pendant une heure et elles ont échangé. Elles se posaient pas mal de questions. C'était assez fascinant, donc c'est passé à la radio.
C'est fascinant parce que c'est dans un territoire, dans une superficie assez restreinte finalement. Hein. C'est
presque voisin. On est à 30 minutes de voiture. Hein, ouais.
Alors que ce sont deux mondes diamétralement opposés.
C'est deux mondes complètement... Oui, c'est fou quand on ressort. D'ailleurs, quand je suis partie de Gaza, ils n'arrivaient pas à imaginer que dans une demi-heure, je serais à l'aéroport et voilà, et que je partais. Et eux, ils ont jamais... J'ai rencontré des gens qui ont 25 ans qui ne sont jamais sortis de cette bande de 40 km sur 7. Mais cet échange était assez fort. Et après, il y a eu la guerre de l'été, et c'est vrai que Ensuite, elles étaient en contact et évidemment, la guerre a fait que c'était difficile de se parler, qu'elles se comprenaient pas forcément. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est toutes ces rencontres pas prévues aussi. Donc j'en parle dans le livre parce que...
Le charme des voyages.
Oui, et qui sont hyper importantes dans la vie aussi, même de tous les jours, toutes ces rencontres qu'on n'aurait pas dû faire, pas pu faire. Et même si elles sont compromises ensuite par des guerres, des conflits, le fait de s'être parlé à un moment donné, ça a quand même son importance. Et même dans le livre, je parle aussi de rencontres de gens avec qui je pourrais jamais avoir des amitiés. Enfin, à Gaza, je rencontre la porte-parole du Hamas qui a 23 ans. Mais en même temps, c'est aussi important de se confronter à ceux qui pensent pas pareil que nous et qui, parce que.
On sent que le dialogue est difficile, hein.
Même si le dialogue est difficile et que, évidemment, on n'est pas devenus amis et à Beyrouth, j'ai rencontré quelqu'un qui fait partie du Hezbollah et en Russie, quelqu'un du parti Russie Unie. On sera jamais d'accord, mais le fait de s'être parlé à un moment donné, ça a quand même son importance et ça modifie des choses et pour moi et pour la personne et je pense que c'est important aussi de pas rencontrer que des gens qui nous ressemblent et avec qui on pense pareil parce que ça fait avancer.
Avec toujours l'espoir de convaincre.
Oui, en tout cas de bouger. Et tous les jeunes dont je parle dans le livre, c'est aussi pas... ils sont pas pareils, ils se ressemblent pas, ils ont pas les mêmes religions. Mais c'est tous des gens qui sont ouverts, donc pas ceux dont je viens de parler là, mais ceux avec qui on est devenus amis. Tous des gens qui peuvent changer d'avis aussi, et qui sont ouverts à ça.
Qui essaient de comprendre, tout simplement.
Qui essaient de comprendre et d'avancer. Et je pense que Gal aussi, le fait d'avoir parlé à Nabila, elle a rencontré Amir qui vient de Gaza, qui habite en France, dont je parle pas mal dans le livre, elle l'a rencontré en France... Et je pense que c'est pas rien, c'est le premier Gazaoui qu'elle rencontrait dans la vraie vie. Et ces rencontres-là, elles sont importantes. Je pense que à une petite échelle, elles modifient les choses et les gens et peut-être un jour, de façon plus vaste, les situations. Mais tout le fait qu'ils se rencontrent est très important.
Une semaine d'actualité.
Aurélie Charron, nous allons faire une escale en France, maintenant un pays que vous connaissez bien également, dans un rapport consacré aux services publics face à la radicalisation. Les députés Éric Diard, élu des Bouches-du-Rhône, Les Républicains, et Éric Pouyat, élu de Gironde pour La République En Marche, ont dressé un vaste état des lieux aux conclusions, disons, mesurées. Anthony Gattier.
Il ne faut pas paniquer, mais il ne faut pas être dans le déni, explique Éric Pouyat, l'un des deux rapporteurs de la mission d'information.
Il y a des secteurs sur lesquels le constat est rassurant, notamment forces de sécurité intérieure, militaire, éducation nationale. Des questions, par contre, où il y a des vraies zones d'ombre, comme la détention, le domaine sportif, la santé ou les universités et les transports publics.
Il y a par exemple une trentaine de cas à surveiller dans toute la police et la gendarmerie, mais rien qu'à l'aéroport de Roissy, 80 personnes sont suivies pour radicalisation. Nouveauté de ce rapport, les pratiques de certains clubs de sport sont pointées du doigt, ce qui inquiète le député Philippe Gosselin.
Le sport est devenu un moyen de radicalisation. On a des associations sportives en marge de services municipaux parfois, qui interdisent l'accès aux femmes, qui se sont davantage orientées vers les sports de combat. Sport de combat qui pourrait être traduit par sport de guérilla est très dangereux, avec une volonté effectivement de se mettre en marge de la société.
L'une des propositions du rapport, rendre plus facile les licenciements des agents suspectés de radicalisation.
Radicalisation islamiste, pour être précis. Revenons à la canicule en France, je sais que ce sujet vous passionne Aurélie. Canicule qui a entraîné une restriction de la circulation automobile pour cause de pollution de l'air dans les grandes villes dont Marseille, avec parfois des citoyens au civisme disons relatif. Reportage de Stéphane Burgat.
Une brochure explicative à la main, les forces de l'ordre multiplient les contrôles.
Déjà, vous ne l'avez pas sur le pare-brise ? Ça ira pour aujourd'hui. Faites les démarches rapidement, parce que pour l'instant, on fait de la prévention. Mais la prochaine fois, les tarifs seront plus les mêmes.
Sans surprise, très peu d'automobilistes sur ce point de contrôle sont équipés de leur vignette. Certains sont pourtant sensibilisés.
Je comprends tout à fait la démarche, d'autant plus que je viens d'avoir une petite fille, donc je me pose de plus en plus de questions. Est-ce qu'on va rester longtemps ici ou pas ?
Mais d'autres se montrent moins réceptifs, notamment chez les professionnels.
Comme nous, quand on bosse comme ça, on peut pas. On roule, on est obligé de rouler. Donc après, c'est une question de pouvoir ou de ne pas pouvoir.
Mais il sera difficile de faire appliquer cette mesure ici, constate un motard de la police nationale.
Les Marseillais sont parfois un peu laxistes, ça risque de ne pas être respecté. Après, c'est difficile aussi, hein, comme tout le monde nous dit, les gens travaillent, tout le monde a son excuse.
Au bureau de l'association Atmosud, sur une carte interactive, Marseille est indiquée en rouge vif. Mais pour le directeur Dominique Robin, il est grand temps que ces mesures s'étendent de la route à la mer.
C'est vrai qu'à Marseille, il faut le conjuguer avec un S, sans doute, qu'il faudra aussi des actions plus importantes pour les navires, de façon à ce que toutes les sources limitent leur rejet ces jours d'épisode.
Et selon lui, l'alerte pollution pourrait durer plusieurs jours.
Alors, il faut préciser que cette canicule touche non seulement la France, mais aussi une partie de l'Europe avec des incendies en Espagne, des restrictions d'eau potable en Allemagne ou des pollutions dans d'autres parties du continent européen. Je n'ai pas choisi Marseille tout à fait par hasard, Aurélie, parce que vous parlez de cette belle et grande ville dans votre livre ou qui constitue une étape importante dans vos voyages à la rencontre de cette nouvelle génération. Marseille, vous avez fêté, c'est écrit dans le livre, donc je peux le dire, vos 30 ans.
Voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est un moment, c'était en 2015, en fait, je suis partie à la rencontre des jeunes Français après être partie un peu partout à l'étranger. Et c'est vrai que c'était un moment, il y a eu les attentats, on se posait tous des questions sur la jeunesse ici, et je suis partie à Marseille, et c'était assez fort, parce que après avoir été dans des lieux, voilà, on a parlé d'Iran, de Gaza, des lieux un peu compliqués, pour travailler en tant que journaliste. En même temps, il y avait toujours cette curiosité pour les jeunes de rencontrer une jeune française, d'échanger. Et quand je suis partie en France, à Marseille, je me suis rendu compte que personne n'avait envie de me parler, en fait. Enfin, quand j'arrivais, je disais, je suis la radio publique française. À l'époque, c'était pour France Inter ou France Culture. Il y a plein de jeunes gens, je suis allée dans le nord de Marseille, qui avaient plus envie de parler, qui étaient fatigués des discours, qui avaient l'impression qu'on allait les ranger dans une case. Et c'est vrai que je m'attendais pas à cette... On sait qu'il y a une défiance, mais je m'attendais pas...
C'était franchement de l'hostilité. Hein.
Oui, c'était assez dur. Et puis, il me disait, mais pourquoi on aurait confiance en toi? Et on n'a jamais de réponse toute faite à ça. Après, j'essayais de raconter ce que je faisais. Bon. Et puis, finalement, les rencontres ont pu avoir lieu. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment important, justement, que cette parole-là, elle existe. Et de ces jeunes gens, qu'elle disparaisse pas. Parce que s'ils arrêtent de parler, si on leur donne plus l'espace, c'est dangereux. Et j'ai rencontré des jeunes gens, Robin, Eddy, qui justement sont un peu fatigués des discours tout faits et sortent. Par exemple, Robin, c'est vrai que c'est quelqu'un. Si je m'étais dit aussi quand je pars, c'est difficile de trouver des gens parce que évidemment il y a des intermédiaires à qui je dis mais je cherche des jeunes gens. En gros, j'essayais de rester le plus vaste possible pour justement pas trouver ce que je cherche exactement. Et Robin, c'est quelqu'un, j'aurais jamais pu l'imaginer. Il est d'origine corse, il habite dans les quartiers nord, il est berger en Corse. En même temps, il veut travailler dans les espaces verts. Enfin, c'est quelqu'un qui sort complètement de... Voilà, on peut pas l'imaginer avant de le rencontrer. Mmh. Et lui, il m'a raconté beaucoup de choses. Enfin, m'a ouvert les yeux sur la façon dont ça a été difficile. C'est vrai qu'il y a des jeunes à qui on prédit tout et d'autres rien. Et lui, il me racontait que voilà, il voulait dès qu'il avait 10 ans, on lui a dit est-ce que tu veux faire plombier ou menuisier. Ou il y a beaucoup d'horizons qui sont fermés un peu tôt. Et c'est vrai que ça, c'est dangereux parce que du coup, ça fait se replier.
Mais lui a choisi de vivre sa vie comme d'autres d'ailleurs dans d'autres parties de la France que vous avez rencontré. Maxence, fou politique.
Rien à voir. Maxence et Pierre à Kievrochin dans le nord, près de Valenciennes. Et alors eux, ils ont décidé de devenir... Pierre est devenu maire de Kievrochin aux dernières élections municipales.
Mais
et
alors,
il avait 23 ans.
Voilà,
passionné.
23 ans, ouais.
Et Maxence avait 21 ans, c'est son adjoint. Et eux, ils étaient super intéressants parce que justement, ils se sont dit mais pourquoi on n'aurait pas notre place? On a 20 ans, mais en même temps... Et ils l'ont fait très sérieusement. Ils ont fait une campagne pendant un an. Ils sont allés voir les gens. Et le maire en place à Kievrochin était là depuis 27 ans. Et donc, c'était difficile de même s'imaginer ou s'autoriser pouvoir arriver là, mais eux ils se sont dit bah on peut, si on travaille on peut y aller. Et il a été élu haut la main et depuis d'ailleurs ils sont super investis dans leur ville et ils vont se représenter.
Et vous avez aussi rencontré Martin France.
Oui. Martin France, qui est son vrai nom de famille. Lui qui vient du Nord-Pas-de-Calais, c'est une famille d'agriculteurs, de père en fils, d'agriculteurs bio. Son père est un des premiers bio de la région. Et Martin, il est marrant parce que voilà, il s'appelle Martin France, donc il questionne beaucoup ce nom de famille. Et lui, il a eu la chance aussi de faire des pas de côté, comme il dit, parce qu'il a, grâce à Erasmus, il est parti à Palerme. Et puis là, en ce moment, il est en Guadeloupe, donc il voyage pas mal. Et c'est vrai que lui, il me disait, mais quand on est dans mon petit village, notre seul lien avec l'extérieur, c'est la télévision, c'est ce qu'on nous raconte. Et c'est dur de faire ses pas de côté quand on n'a pas la chance de voyager. Et donc c'était intéressant de lui parler, de voir aussi sa vision à lui. Par exemple, lui, c'est quelqu'un qui est vraiment en train de réinventer le rapport à la terre, à l'agriculture, à l'écologie, on en parle beaucoup, mais et qui veut se réinvestir dans la ferme de son père et faire de la réinsertion sociale. Enfin, c'est vraiment des gens qui sont en train de changer les choses et à leur endroit.
Justement, c'est ça qui est passionnant. C'est chacun dans des genres différents, dans des univers différents, dans des lieux différents de France, pour ne parler que de la France, tracent, sans jeu de mots, leur sillon. Tout en ne correspondant pas vraiment au profil type qu'on imagine sur la jeunesse aujourd'hui.
Oui, voilà, ils
pas
sont
forcément
tous...
des études, pas forcément le business, pas forcément. Ils sont chacun à la fois rebelles et déterminés.
Oui, et ils ont tous envie, ils ont pas envie d'abandonner cette idée du sens, quoi, de donner un sens à leur vie et de faire quelque chose d'utile. Et ce besoin d'être utile, on le ressent tous et parfois, malheureusement, on n'a pas la chance de pouvoir l'investir complètement. Et ça, c'est très fort dans les gens que j'ai rencontrés.
Et justement, est-ce que c'est la marque d'une génération, ça ?
Je crois, j'ai l'impression, en tout cas, tous ceux que
j'ai rencontrés... ceux que vous avez rencontrés,
ouais. Ont vraiment envie de redonner du sens et ont plus envie de lâcher sur cette idée, quoi. Et sur quitte à gagner moins d'argent, quitte à aller dans d'autres endroits, mais ils n'ont pas envie d'abandonner le sens.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, donc, merci pour vos messages. Continuez bien sûr à nous écrire également à la page Une Semaine d'Actu de Facebook. Bonjour, cette semaine, à Archiduc Théodore N'Djamena, le Soudan est en train de souffrir car l'armée a volé au peuple soudanais sa révolution, écrit-il. Bonjour à Issa Barry, bonjour Pierre-Edouard, bonjour à tous les auditeurs. Je vous écris depuis la Guinée-Conakry. Il n'y a pas de démocratie sans la paix, alors une pensée à tous les pays qui sont en guerre. Bonjour à Paris à Libreville, Abdoulaye à Bamako, Lassi au Mali également et à Fousséni à Lomé.
Une semaine d'actualité.
Aurélie Charon, partons pour l'Afrique maintenant et pour la Mauritanie précisément, qui a fait la une de l'actualité cette semaine après la victoire samedi dernier, dès le premier tour, du général à la retraite Mohamed Ould Ghazouani. Avant d'y revenir, revenons au jour du vote. Il s'agit d'une élection présidentielle dans le désert, par exemple, avec ce reportage de Gaël Lalex.
Battu par le vent et le sable du désert, une tente de tissu. C'est un bar. On y boit d'ordinaire le thé, mais pas aujourd'hui. Mini Ould Ahmed Najim, un éleveur.
On vote dans cette tente. Nous avons des isoloirs et des bulletins que la CENI apporte. Le vote, c'est très important si on a un bureau de vote ici. Après, on espère qu'on aura l'eau, l'éducation et la santé pour nos enfants.
Wapchebi n'a rien, ou presque. La localité n'a surtout pas d'eau. Elle attend la mise en route d'un forage réalisé par le projet d'appui à la sécurité et au développement financé par l'Union européenne. D'ici là, il faut faire des kilomètres pour remplir ses bidons. Dans ces conditions, voter semble bien dérisoire pour déjà la femme du chef de village.
Avant, on nous transportait pour aller voter dans les villes. On est des oubliés ici. Parfois, des autorités prétendent s'intéresser à nous, mais c'est de la manœuvre électorale. Après, ils disparaissent sans regarder derrière eux.
À 70 ans, Ahmed, lui, ne boude pas son plaisir. C'est la première fois qu'il vote chez lui.
Ce bureau de vote me rend très heureux parce que ce sont les autorités qui l'ont voulu. Mais maintenant, vont-elles répondre à nos aspirations ? Jusque-là, jamais rien d'intéressant ne nous est arrivé. Mais demain, peut-être, j'ai choisi mon candidat. C'est celui que toute ma tribu soutient.
À Wapchebi, plus de 300 personnes sont inscrites sur les listes électorales.
Alors revenons donc sur la victoire de Mohamed Ould Ghazouani à l'élection présidentielle en Mauritanie, à Nouakchott, Salem Nejbour, Salem.
La CENI a finalement conforté les propos du général à la retraite Razouani qui avait affirmé samedi soir avoir gagné l'élection présidentielle dès les premiers tours. Mohamed Val Oulbelal, président de la CENI.
Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed Cheikh El Razouani, 52,01%. Sidi Mohamed Boubacar Boussal, 17,87%. Biram Da'abeid, 18,58%.
Kan Hamidou Baba et Mohamed Oulmaoulud arrivent 4e et 5e avec respectivement 8 et 2% des suffrages. Selon le président de la CENI qui a souligné la transparence du scrutin.
Afin de garantir la transparence des élections, chaque candidat a pu déléguer des représentants pour accompagner les différentes étapes du processus, que ce soit dans les bureaux de vote pour suivre les opérations de vote et de dépouillement ou au siège des commissions électorales au niveau des Moukata pour la consolidation des résultats.
Ces résultats provisoires doivent être validés par le Conseil constitutionnel. Ils sont rejetés avant même leur proclamation par les quatre candidats de l'opposition.
Quatre candidats qui ont accusé les autorités mauritaniennes d'imposer un état de siège de fait, disent-ils, dans le pays. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux. Partons maintenant pour la Tunisie endeuillée jeudi. Le groupe djihadiste État islamique a en effet revendiqué le double attentat suicide de Tunis qui a tué un policier et blessé 8 personnes jeudi donc. Correspondant ce jour-là de Michel Picard.
Les attentats qui ont frappé Tunis n'avaient pas pour cible les touristes. Contrairement aux attaques qui ont frappé il y a 4 ans une plage de Sousse et le musée du Bardo, ce sont une fois encore les forces de l'ordre qui ont été ciblées sur l'avenue Bourguiba et à la caserne d'El Golzani. La pression n'est jamais retombée ces dernières années sur la police et les militaires tunisiens. Des patrouilles attaquées, quelques points de la frontière algéro-tunisienne instables pour les sécuritaires. L'an dernier, une femme s'est fait exploser fin octobre sur l'avenue Bourguiba près d'un véhicule de police et une attaque au couteau avait également eu lieu devant le Parlement. Les casernes et postes de police restent en état d'alerte et le pays en état d'urgence depuis 2015, année des attentats qui ont visé des touristes qui n'ont pas été pris pour cible depuis. Ce qui a permis de relancer le tourisme à un niveau historique cette année puisqu'on attend 9 millions de visiteurs étrangers. Au Parlement tunisien, les chefs des blocs parlementaires se sont réunis pour condamner fermement ces attaques revendiquées par le groupe État islamique. Difficile de savoir s'il s'agit d'une revendication de circonstance ou si le groupe était réellement en lien avec les kamikazes.
Et dans nos journaux, on vous parle aussi des conséquences du malaise du président tunisien Béji Caïd Essebsi. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Aurélie et Charon. Et dans votre série de portraits qui nous conduit un petit peu partout dans le monde, il y a une escale en Algérie où vous avez rencontré par exemple Sofiane et Sabrina. Pourquoi vous ont-ils paru significatifs, intéressants dans votre démarche, votre enquête ?
En fait, c'était un des premiers voyages en Algérie en 2011. Et on était partis donc là avec Aoun Gilet, mon ami qui travaille à la radio, à Alger, et c'était juste après les printemps arabes, enfin quelques mois voilà, au printemps, et on se posait la question de ce qui se passait en Algérie. Est-ce que, pourquoi il y avait moins de choses qui bougeaient? Est-ce que les jeunes sortaient? Et on a rencontré Sofiane, qui lui était un des jeunes. Il y a eu quelques petites manifestations en Algérie, mais très peu, et Sofiane était assez passionnant. On l'a suivi, on a rencontré sa mère, et lui nous a raconté. Lui, il est né en 88 ou 89, justement juste après octobre 88, et qui, selon les Algériens, est le premier printemps arabe où ils étaient sortis dans la rue. Il y a eu ces quelques années d'ouverture et puis ensuite,
c'est
malheureusement,
les choses se sont considérablement gâtées.
Les choses se sont gâtées, il y a eu la décennie noire. Et donc, lui nous expliquait en 2011, nous, on sait ce qui peut se passer. Et en tout cas, on est plus prêt à mourir pour ça. Et le changement se fera, mais il se fera d'une autre façon. Enfin voilà, il peut pas. Et c'était passionnant de le rencontrer en 2011, évidemment, de lui reparler là cette année et de voir tout ce qui se passait en Algérie. Et c'était fou.
Avec la révolution, entre guillemets, de mars 2019,
oui,
qui continue.
Tout cas, voilà, qui continue. On verra ce que ça donne. Oui. Mais en tout cas, pour eux, c'était très, très fort d'avoir réussi au moins ça, d'avoir réussi à sortir de façon quand même pacifique, de façon si organisée. Ils étaient super fiers et c'était très émouvant de lui reparler et de voir que, voilà, ils avaient réussi ça. Et donc, c'était, l'Algérie, ça a été un moment très important, et je parle aussi de Samia que j'ai rencontrée à ce moment-là et qui, elle, a grandi dans une famille très conservatrice, très, bon, islamiste comme elle dit, dans les années 90, qui a eu peu de liberté, et elle, ces quelques mois dans la rue, là, elle est en train de revivre. Elle me dit, mais je vois des mots que j'avais plus vus, la liberté, l'expression des jeunes de 20 ans qui sortent et qui revendiquent ça, et rien que ça, il peut pas y avoir de retour en arrière sur ça, quand on sait, je parle aussi de Ahmed, un jeune Syrien qui a passé 2 ans dans les prisons là en Syrie, et qui me disait, même si aujourd'hui la situation est un peu désespérée. Là, il vit en Turquie et il me dit, mais moi, il y a des choses, le doute, c'est irréversible. Il y a des choses, il y a des mots aussi, liberté, qui n'existaient pas. Je savais même pas que ça existait, comme Gaza Amir. Et le fait de savoir maintenant que ça existe, on pourra jamais plus me dire que ça n'existe pas. Et ce mot-là, il est ancré et ça, c'est irréversible. Et ça, en ça, je suis optimiste parce que toute ma génération, on sait qu'on a des droits et qu'on peut les revendiquer. Et quand on pourra rentrer dans notre pays, on le construira d'une autre façon.
Sept jours en Afrique.
Partons pour le Mali maintenant, Aurélie, avec un peu d'optimisme. On continue à être optimiste et volontariste. Lundi, en effet, à Bamako, en présence des chefs de toutes les communautés religieuses du pays, de nombreux représentants de la région de Mopti se sont déclarés décidés à apporter leur contribution à un règlement de la crise dans la région centre du pays. Serge Daniel.
Représentants des communautés musulmanes, catholiques, protestantes du Mali, tous présents aux côtés des fils des ressortissants de la région de Mopti pour trouver une solution à la crise du centre du pays. Cardinal Jean Zerbo, archevêque de Bamako.
La région de Mopti, le drame qui se vit là-bas, nous préoccupe énormément. Notre mission est double, je l'ai dit. Nous devons être des sentinelles. Quand le danger est là, prévenir qui de droit pour que mettre fin à vous. L'homme des intercesseurs.
Concrètement, pour aider à résoudre la crise, des missions seront dépêchées sur le terrain. Maître Kassoum Tapo, ancien bâtonnier de l'Ordre des avocats du Mali, ancien ministre et l'un des principaux initiateurs de la rencontre.
Il s'agira de composer des groupes à partir de Bamako, avec les ressortissants des différents cercles, avec les représentants des différentes associations, les représentants des religieux qui ont été là ce matin et qui nous ont dit qu'ils seront des sentinelles vigilantes qui vont nous accompagner. Donc pour aller sur le terrain et trouver les solutions adéquates.
Dans la foulée de la cérémonie, s'est tenue la première réunion pour rentrer dans la phase opérationnelle des activités du collectif.
Terminons notre voyage avec des reportages sonores en Somalie, avec un de ceux que nous a proposé notre envoyé spécial, Sébastien Nemeth, sur le marché de Mogadiscio, précisément, où la vie et l'activité reviennent malgré les attentats des islamistes Shebab, et alors que le nouvel envoyé spécial des Nations Unies est arrivé sur place mardi pour, dit-il, entériner les progrès enregistrés en termes de paix et de prospérité.
16 heures passées au marché Marina, les commerçants commencent à fermer leurs boutiques et à rentrer. Mohamed Ahmed Ismaël a 20 ans, vendeur en électronique depuis l'an dernier, il ne se plaint pas même si tout n'est pas parfait.
Les affaires sont bonnes, j'ai des clients réguliers. Parfois les attentats posent problème. Ça perturbe nos déplacements, on doit changer nos itinéraires. Parfois, on ne va pas travailler si les routes ont été coupées ou une fusillade est en cours. Là, on doit se protéger et faire passer les affaires au second plan.
Certains commerçants des boutiques voisines sont des anciens du marché Marina. Aïcha y travaille depuis une douzaine d'années et elle garde un certain recul.
À l'époque, on avait peur. Venir au marché, acheter du stock, retirer de l'argent, tout cela était difficile. Mais aujourd'hui, on a moins d'inquiétudes. Les gens se sont habitués. Quand il y a une explosion, on évite le secteur, mais on ne s'arrête pas de vivre. Mon problème, c'est plus la situation internationale, quand les stocks sont en baisse ou qu'on subit de l'inflation.
Moussa Dia Mohamed Ali vend quasiment les mêmes choses que sa voisine et son constat est identique. Elle qui a commencé la vente alors que Mogadiscio était encore en partie contrôlée par les Shebab.
Avant, on se levait le matin sans savoir si on rentrerait vivant le soir. On ne savait pas si on pourrait acheter des marchandises ou en vendre. On ne pouvait pas se déplacer librement. Aujourd'hui, il y a encore de la peur, mais pas autant qu'avant. La sécurité et donc les affaires s'améliorent chaque année.
Les commerçants se sont construits une véritable résilience pour continuer à vivre. Tous sont d'accord, la Somalie a un meilleur avenir devant elle.
Reportage donc de Sébastien Nemeth à Mogadiscio. Suite et fin de cette édition d'une semaine d'actualité avec vous, Aurélie Charron. Dans ce voyage avec une génération des trentenaires, toujours pour schématiser, vous nous conduisez à Kigali aussi.
Oui.
Kigali qu'on ne connaît pas trop.
Kigali, c'est un des derniers voyages que j'ai fait. J'y étais en octobre dernier. Et c'est vrai que c'était fascinant de rencontrer des jeunes gens qui aujourd'hui ont 20-25 ans et se posent la question de leur histoire, de l'histoire du pays, qui sont nés juste après le génocide de 94 et qui... voilà, c'est leur histoire et en même temps pas, et comment on fait pour avancer. Et c'était intéressant parce que je parlais de la circulation et de la rencontre entre eux. Il y a un jeune qui s'appelle Yannick et qui se pose beaucoup de questions, qui est né en 95 et qui a rencontré Inès de Sarajevo, donc qui, elle, a vécu le conflit en Bosnie dont je parle et qui vient d'une famille mixte.
La
croate,
Bosnie est très présente aussi dans ce livre.
Voilà, croate-bosniaque, et qui raconte comment au moment de la guerre, toute l'absurdité de ce conflit s'est retrouvée à l'intérieur de sa famille. Et ils discutaient entre eux et Yannick disait à Inès, nous, à Kigali, au Rwanda, on, à part cette semaine de commémoration tous les ans, on parle pas de l'histoire, on peut même plus prononcer les mots, j'ai l'impression d'être, de vivre dans le silence, est-ce que j'ai l'impression qu'il faudrait qu'on en parle plus pour que ça aille mieux? Et Inès lui disait, tu sais, nous, on parle du conflit tous les jours, on en parle trop, et on s'enlise, parce qu'en fait, on répète, c'est un cercle vicieux, et voilà, on parle que de ça. Donc c'était marrant parce que Yannick était un peu perplexe et disait, mais alors c'est quoi la solution? Parce que nous, on n'en parle pas assez, vous en parlez
trop.
Ouais.
Mmh.
Mais ça paraît anecdotique, mais ce genre de discussion, après, évidemment, ils ont continué, et c'est passionnant de se dire, mais comment on fait quand on est une génération qui arrive après pour ne pas hériter bêtement, voilà, des conflits de ses parents et en même temps ne pas les ignorer. Et ça, c'était passionnant sur la réconciliation. On est aussi allé en Afrique du Sud avec Inès justement de Sarajevo et les échanges aussi étaient fous sur la vérité, la réconciliation. Comment on fait pour avancer mais en même temps se souvenir?
Alors, il semblerait que vous soyez complexé, pas vous, mais votre génération, Aurélie, Charon. Vous écrivez dans ce livre, nous sommes une génération complexée. La révolution, c'est notre histoire et à la fois pas du tout. On n'a jamais rien fait pour, on n'a aucun mérite.
Ça, c'est parce que c'était
marrant. C'est pas fini, hein. L'histoire n'est pas finie.
Non, ben j'espère. Quand j'ai voyagé, surtout en France, à chaque fois, je demandais quels sont les événements historiques qui vous ont marqué ou là où vous auriez aimé être. Et souvent, que ce soit n'importe quelle ville, n'importe quel milieu, souvent, les réponses qui arrivaient, c'était la Révolution française, mai 68, enfin, ces moments révolutionnaires. Et donc, cette histoire révolutionnaire de la France qui était quand même très présente et dont on était fiers, et en même temps, avec cette sensation d'être justement nous une génération où, bon, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? Comment on s'organise? Et donc, c'est en ça que je me disais, mais on est tellement attaché à cette histoire révolutionnaire, et en même temps, c'est vrai qu'on a l'impression d'arriver après et de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait? Et en même temps, je parle de jeunes gens qui réinventent justement des moyens de résister, de se rebeller, mais c'est une vraie question.
Et qui font en quelque sorte leur évolution, leur manière.
Oui, voilà, chacun, ils inventent. Mais c'est vrai que ça m'avait marqué cette forte impression dans la tête de tous que ça faisait partie de notre histoire et qu'il fallait pas démériter non plus. Et c'est cette idée-là, comment on fait pour être à la hauteur, nous aussi, de cette histoire et inventer des nouvelles façons de faire des nouveaux modes d'action et voilà, à son échelle, qui sont pas forcément spectaculaires, mais avec quelques idées, on peut quand même créer des choses, se rassembler et faire ensemble avec des gens qui nous ressemblent pas aussi forcément. Et ça, je le dis aussi au début du livre, et ça paraît tellement bête, mais le moment où on réalise qu'on se ressemble pas et que c'est pas grave, vraiment, ça fait du bien, et vraiment, il faut s'en rendre compte dans la vie que c'est pas parce qu'on partage pas la même religion, les mêmes opinions politiques, qu'on peut pas partager un pays et construire des choses ensemble. Et ça, c'est assez libérateur.
La redécouverte de la tolérance, en quelque sorte.
Oui, voilà, ça paraît tout bête et ça paraît naïf, mais en fait, c'est des vraies choses très concrètes qui sont mises à l'épreuve quand on rencontre vraiment les gens et quand on échange. Et moi, j'en parle aussi dans le livre, j'ai grandi à Châteauroux, dans le centre de la France. Rien n'aurait dit que j'allais rencontrer Amir, qui lui a grandi dans un camp de réfugiés à Gaza, ou Eddie, qui a grandi dans le nord de Marseille, et aujourd'hui on a des choses à se dire, et le fait de les avoir rencontrés et d'échanger, évidemment, a modifié des choses aussi dans ma perception à moi, et m'a déplacé, et c'est des risques au quotidien qu'il faut prendre, d'être bousculé, d'être déplacé, et parfois on n'est pas d'accord, c'est pas aussi l'idée de se dire on va être d'accord sur tout, c'est génial, pas du tout, il y a des moments d'accroche, il y a des moments justement
heureusement où
on n'est pas d'accord, où parfois il y en a qui n'ont plus envie de se parler aussi, mais c'est justement par ça qu'on peut avancer, il faut juste l'accepter, se dire que c'est normal et que c'est au contraire ça fait du bien et ça nous fait avancer.
Merci Aurélie Charon, votre livre s'intitule « C'était pas mieux avant, ce sera mieux après », il est publié aux éditions L'Iconoclaste. On a bien compris que c'est un livre très intéressant, qui est le livre sur une génération dans le monde, qui monte et qui essaie d'inventer quelque chose. Merci.
Merci beaucoup.
Une semaine d'actualité, une émission réalisée évidemment par Vanessa Rovensky. Je vous retrouve demain pour le magazine Idées. Nous parlerons d'un sujet important et toujours d'actualité, lui aussi, le mensonge éternel, avec nos invités. Demain dimanche, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine. Dans un instant, un nouveau journal sur RFI.